Le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités, voici des temps nouveaux, chantons gloire à l'agneau, nous recevons de Christ. Ce qui l'avait promis, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort est bien vaincue. Dieu donne un grand salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. L'obscurité s'enfuit, la lumière a jailli, chasse des cœurs troublés, toute crédulité, car Christ, le roi des rois, répand l'esprit de foi, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la mort est bien vaincue. Dieu donne un grand salut, et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là, le grand Consolateur vient remplir tous les cœurs, l'Esprit de vérité nous met en liberté, il ouvre les prisons, répand la guérison. Bien vaincu, Dieu donne un grand salut, et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là, que tout les rachetés chantent leur liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. bien vaincu. Dieu donne un grand salut et sur le monde entier le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là.
Eh bien, c'est fait. Je vous invite, frères et sœurs, à vous lever. Nous allons lire la parole sacrée que nous trouvons pour ce matin. Dans l'Évangile selon Saint Jean, au chapitre 6, frères et sœurs, nous allons lire les 15 premiers versets du chapitre 6. De l'Évangile selon Saint Jean. Je vais faire la lecture pour vous, tandis que vous suivrez avec moi. Jean, chapitre 6, frères et sœurs, les 15 premiers versets, c'est-à-dire de verset 1er au verset 15, à la gloire et du Seigneur, frères et sœurs. La parole de Dieu dit ceci: après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Jean chapitre 6, versets 1 à 15, à la gloire du ressuscité. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là il s'assit avec ses disciples. Or la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe: où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit: les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit: il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour nourrir tant de gens? Jésus dit: faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples: ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient: celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul, dès le Seigneur bénir la lecture de sa parole, frères et sœurs, pour notre plus parfaite édification. Je continue d'exposer, frères et sœurs, la réalité de la gloire de Dieu, parce que c'est une sorte de prémisse fondamentale à la suite de l'exécution de la série. Le peuple de Dieu a besoin de comprendre ce qu'est la gloire de Dieu, la manifestation, les diverses facettes de la gloire de Dieu, des manifestations de la gloire de Dieu, avant de comprendre pourquoi il faut rendre gloire à Dieu. Et j'ai déjà communiqué les informations relatives à la régie, aux fins d'enregistrement. Et je vais les reprendre ici. C'est toujours le même sujet dans le cadre du thème central que nous appelons « Glorifions Dieu dans tous les aspects de notre vie ». Et le sujet, depuis quelque temps que j'ai commencé à prêcher, c'est la réalité de la gloire de Dieu. Aujourd'hui, à partir de ce sujet qui dit la réalité de la gloire de Dieu, le Seigneur m'a mis à cœur, à partir de ce texte de base que nous venons de lire ensemble, eh bien, de vous entretenir sur ce titre ou sur ce sous-sujet qui s'intitule « Dieu sait ce qu'il fera ». Est-ce que ça va à l'église?
Amen.
Dieu sait ce qu'il fera. Dieu sait ce qu'il fera. Le miracle de la multiplication des pains, frères et sœurs, pour ceux qui sont familiers à l'écriture, qui lisent leur Bible assez souvent, vous pouvez vous rendre compte que c'est le seul des miracles du Seigneur qui est raconté dans les quatre évangiles. Saint Luc en parle, Saint Matthieu en parle, Saint Jean en parle. Il y a des événements habituellement que les trois évangiles dits synoptiques peuvent traiter, peuvent présenter. En parallèle, on peut les regarder ensemble d'un trait, d'où le nom d'évangile synoptique. Mais Saint Jean ne traite pas nécessairement de ces sujets, ou s'il le fait, il y a toujours une certaine différence entre la manière dont il présente l'événement, l'enseignement, ou un aspect de l'enseignement de Jésus, par rapport à la manière dont les trois évangiles synoptiques le présentent. Et on voit que le miracle de la multiplication des pains, eh bien, fait exception à cette règle, frères et sœurs. Et je crois que le Saint-Esprit de Dieu a une bonne raison pour faire cela, pour faire en sorte que ce miracle soit le seul qui est rapporté dans les quatre évangiles. Et contrairement à beaucoup d'autres événements, beaucoup d'autres miracles que le Seigneur a fait, frères et sœurs. Cependant, Matthieu, Marc et Luc, ils nous donnent quelques détails que Jean ne nous donne pas, frères et sœurs. Et de la même manière, comme c'est presque toujours le cas, Jean donne aussi des détails que eux autres, ils ne donnent pas. C'est la raison pour laquelle c'est important de regarder un peu l'arrière-plan. Hein, on ne va pas le faire de manière détaillée, de manière trop étendue. C'est la raison pour laquelle c'est important de regarder l'arrière-plan de ce miracle que le Seigneur a opéré, frères et sœurs. Les évangiles de Matthieu et de Marc, par exemple, nous donnent deux raisons distinctes pour lesquelles Jésus et ses disciples sont allés dans le désert, parce que le miracle s'est produit dans le désert, comme vous le savez, vous l'avez compris. Et Jean, lui, il ne parle pas des ou de la raison qui ont conduit le Seigneur et ses disciples, eh bien, dans le désert. Selon l'évangile de Matthieu, chapitre 14, versets 13 à 14, frères et sœurs, eh bien, Jésus et les disciples sont allés dans le désert parce qu'ils sont affligés. Ils viennent de recevoir la tragique nouvelle, eh bien, de la mort de Jean-Baptiste, dont la tête a été coupée par Hérode. Alors, Jésus a cru bon, eh bien, de trouver un endroit à part avec ses disciples, frères et sœurs, non seulement pour se retirer avec eux, mais également pour s'isoler un peu, peut-être par mesure de précaution, ou du moins pour commencer à se remettre, eh bien, de cette nouvelle tragique qu'ils ont reçue. Tandis que Marc, en 6, 30 à 33, et Luc, en 9, 10 à 11, frères et sœurs, et il nous donne une raison différente pour laquelle Jésus et ses disciples sont allés dans le désert. Ils disent que Jésus sont allés dans le désert avec ses disciples, Eh bien, parce que Jésus était fatigué. Dans l'évangile de Marc, il est dit qu'il y avait tellement de monde, tellement de gens qui allaient et venaient que les disciples eux-mêmes n'avaient pas le temps de manger parce qu'ils ont travaillé beaucoup. Ils ont fait l'œuvre du Maître, du Seigneur. Donc, ils étaient fatigués. Ils avaient besoin de repos, frères et sœurs. Alors, Jésus, eh bien, leur dit qu'ils doivent venir avec lui pour se reposer dans le désert. Et selon Matthieu, c'est la raison. Ainsi, lorsque nous lisons le texte, nous voyons qu'en y arrivant, eh bien, il y voit 5000 hommes, sans compter les femmes, eh bien, et les enfants qui les attendent. Parce qu'ils ont su que Jésus allait, eh bien, dans le désert, se retirer avec ses disciples pour un petit temps, eh bien, de retraite. Et alors, ils sont allés attendre le Sauveur parce qu'ils ont appris qu'il fait beaucoup de miracles. Ils ont vu qu'il a fait beaucoup de miracles avec eh bien, ses disciples après lui, frères et sœurs. Eh bien, Jean, pour sa part, il raconte l'histoire d'une manière un peu différente. Hein? Il n'y a pas de contradiction dans l'Écriture. Je crois que Dieu a tout arrangé. D'abord, il y a des raisons théologiques pour cela, pour que chacun raconte l'histoire avec des différences de détails. Mais la raison la plus importante, c'est que le Saint-Esprit de Dieu veut donner, eh bien, toute une panoplie, différents aspects de la chose, de la situation. Il n'y a pas de contradiction, ils sont complémentaires. C'est la même histoire qui est racontée. Chacun a mis l'accent sur un aspect particulier, eh bien, du contexte, soit géographique, soit historique, soit social, soit culturel, eh bien, qui anime et qui encadre l'événement qu'il raconte, et comme ici, qui encadre le miracle de la multiplication des pains. Dans la version de Jean, de l'histoire, nous voyons, frères et sœurs, que Jésus commence par engager une conversation avec un de ses disciples, en l'occurrence Philippe. Et la conversation porte sur la nourriture. Comment faire pour nourrir cette foule affamée qui suivit Jésus avec, eh bien, ses soldats. Il s'adresse à Philippe parce que Philippe connaît le coin. Il est de Bethsaïda. Est-ce que ça va, frères et sœurs? Le texte dit, « Ayant levé les yeux, frères et sœurs, juste ça peut faire un message, un sermon, peut-être même une thèse de doctorat. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous, frères et sœurs, des pains pour que ces gens aient à manger ?» La gloire de Dieu commence à se manifester. Parce que le Fils de Dieu est ému de compassion. Et votre serviteur, votre pasteur, vous a déjà enseigné que la gloire de Dieu suppose la compassion de Dieu. Te rappelles-tu? C'était une parenthèse. La gloire de Dieu commence à se manifester. Tout le monde avait la tête baissée. Mais lui lève les yeux. Puis au verset 6, frères et sœurs, le Saint-Esprit de Dieu nous dit formellement, sans embâche, clairement. Parfois, nous, les théologiens ou les apprentis théologiens, les étudiants de la Bible, nous essayons, sous la grâce de Dieu, sous l'onction du Saint-Esprit de Dieu, d'interpréter le texte. Mais ici, il n'y a pas lieu d'interpréter. L'idée est claire, l'idée du Seigneur est exprimée de manière claire. Saint Jean dit, il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Est-ce que l'Église est là? Amen. C'est de là que vient le titre du message qui dit, Dieu sait ce qu'il va faire. Pour l'éprouver, il disait cela pour l'éprouver. En d'autres termes, frères et sœurs, La question que le Seigneur pose à Philippe à l'idée « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» vise à exprimer l'impossibilité quant aux hommes de trouver tous les pains nécessaires dans quelque lieu que ce soit de la contrée pour nourrir cette foule de gens affamés. Autrement dit, l'Église, Jésus n'a pas eu besoin de la réponse de Philippe. Le Fils de Dieu n'a pas eu besoin du point de vue ou bien de l'opinion de Philippe pour exécuter son dessein, son plan qui consistait à nourrir eh bien, cette foule affamée. Mais qu'à cela ne tienne, il pose la question en vue de tester Philippe, d'attirer l'attention de Philippe sur la problématique. Jésus sait que Philippe ne connaît nulle part, aucun endroit où il puisse se procurer du pain pour nourrir autant de monde. Ce n'est pas parce que Philippe est de la région, est de la zone, est de Bethsaïda, à quelques 14 kilomètres de là où le Seigneur se situait, qu'il peut nécessairement savoir où trouver de la nourriture pour ravitailler plus de 5000 personnes, frères et sœurs. Jésus savait l'oratoire depuis l'éternité qu'il y aurait un problème de ce genre qui se poserait. Et il savait comment il allait s'y prendre pour résoudre ce problème, car il savait depuis l'éternité qu'il y aurait à cet endroit un petit garçon qui aurait 5 pains et 2 petits poissons. Et alors, frères et sœurs, rappelez-vous, Jésus n'est pas à son premier coup. Il a dit à Nathanaël que « Je t'ai vu sous le figuier ». Il connaît la situation déjà. Il a dit à la femme samaritaine « Je connais ton passé ». Il y a commencé à lui donner des exemples et la femme s'en est rendue à l'évidence qu'il était en face du Fils de Dieu. La gloire de Dieu a commencé à manifester. Elle n'avait qu'à avouer qui elle est aux yeux du Seigneur. Et elle a glorifié le Seigneur par ailleurs. Alors, il savait que cette foule serait un jour mal prise. Mais qu'à cela ne tienne, il dit cela à Philippe pour l'éprouver, dit la Bible. Où achèterons-nous des pains pour nourrir cette foule? Il a voulu attirer l'attention de Philippe sur le dilemme. Il a voulu attirer l'attention de Philippe sur l'impasse, sur le cul-de-sac. Il y a une impasse majeure. Il y a un cul-de-sac. Il y a une problématique majeure. La foule a suivi le Christ depuis hier, depuis des semaines. Elle a faim en ce moment. Le Seigneur s'en est rendu compte. Le Seigneur voulait voir, frères et sœurs, en posant cette question à Philippe, si Philippe avait bien compris tous les messages que Philippe avait déjà eu la grâce d'entendre dans le passé. Est-ce que ça va à l'église du Seigneur? Est-ce que Philippe avait compris tous les enseignements du mardi soir, du mercredi soir, du lundi, du samedi, aux jeûnes de prière, aux cellules de prière? Il dit cela pour voir dans quelle mesure Philippe a compris les saints enseignements que lui-même lui a prodigués depuis son appel, frères et sœurs. Il voulait comprendre, il voulait voir, est-ce que Philippe connaît avec qui moun l'a marché là? Avec qui il a fait là? Est-ce que Philippe comprend qu'il a affaire avec le Fils de Dieu, l'être de gloire suprême? Est-ce qu'il comprend l'identité de la personne qui marche? Parce que l'identité du Seigneur lui a déjà été révélée. Il dit cela pour l'éprouver. Il arrive parfois, frères et sœurs, que Dieu permette qu'une épreuve survienne dans la vie d'une personne, dans la vie d'une famille, dans la vie d'une église, dans la vie d'un pays, dans la vie d'une nation, pour pouvoir éprouver ces entités-là. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Le Christ n'est pas dupe. Il a éprouvé Abraham. Il sait que c'est au pied du mur qu'on reconnaît les vrais maçons. Il sait que c'est quand il y a la pluie qu'on va savoir les toits qui sont perforés. À ce sujet, l'oratoire, vous vous rappelez, et nous avons déjà étudié l'apôtre Jacques. L'épître de Jacques nous dira dans Jacques chapitre 1, verset 2 à 4, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie. » Nous connaissons tous ce verset. « Comme un sujet de joie complète. » Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Verset 3. Sachant que l'épreuve de votre foi produit qui bagaille. Quoi? La patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, son cours, son travail. Travail de transformation, travail d'éducation, travail de formation, travail de changement, travail de maturité spirituelle. Afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien. C'est là que le Christ veut conduire Philippe. Il aurait pu procéder sans interroger Philippe. Il aurait pu procéder. Saint Pierre nous dira dans 1 Pierre 1er verset 6 à 8. C'est là, en parlant de l'espérance chrétienne, de l'héritage de la vie éternelle. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses qui bagaillent. Quoi? Par diverses épreuves. Pourquoi? Dans quel but? Afin que l'épreuve de votre foi, l'examen de votre foi, le test de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? En réponse, frères et sœurs, à la question que lui posa Jésus, Philippe monte au créneau. Au verset 7, il dit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers, frères et sœurs, écoutez, oui, ne suffirait pas pour que chacun en reçût un peu. » Mais ce n'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande, où achète-t-on-nous des pains? Dis, Seigneur, tu sais toutes choses. Voyez-vous comment nous sommes fragiles, vous et moi, les problèmes tombés. Voilà l'oratoire qui nous montre que la foi de Philippe est défaillante. Certes, il est à ses débuts dans la vie chrétienne, dans le ministère. Mais il a déjà tout trop vu pour ne pas avoir quelle est la posture qu'il doit adopter ici, frères et sœurs. Cette réponse de Philippe, l'oratoire, eh bien, suggère qu'il est inutile de chercher à trouver où il pourrait trouver du pain, étant donné que même s'il en trouverait, ça ne suffirait pas. Est-ce qu'on est là à l'église? Mais c'est Dieu qui parle. Il n'a pas compris que le Fils de Dieu parle, que le Tout-Puissant parle. Il n'a pas compris que le Tout-Puissant, c'est trop beau pour être vrai. Le Tout-Puissant est dans sa compagnie, il n'a pas compris cela. C'est trop beau pour être vrai. Et alors, le peuple de Dieu, Jésus pose une question à un niveau divin. Ça arrive dans la vie chrétienne. Jésus pose une question à un niveau divin, un niveau éternel, un niveau spirituel, un niveau insensible, immatériel, intemporel. Et Philippe répond par une question, par une réponse humaine. Avez-vous remarqué cela? Une réponse terrestre, une réponse temporelle. Lui et son Seigneur ne sont pas sur la même longueur d'onde. Avez-vous compris cela? Nous sommes parfois, votre pasteur et vous, nous sommes parfois misérables. Heureusement, Dieu est un Dieu de grâce. Ça va là? Vous allez voir. Il n'a pas tenu Philippe rigueur, hein? Il comprend cela, je vous le redirai tout à l'heure. Wow. Philippe, c'est un homme de Dieu, frères et sœurs. On ne peut pas remettre sa foi globale et initiale en question. Non, non, c'est un enfant de Dieu. C'est un homme de Dieu, consacré, conséquent. C'est un homme de Dieu. Il en sait quelque chose de la gloire de Dieu. Mais qu'est-ce qui arrive ici, à votre analyse? Problème, difficulté, les circonstances lui font oublier ce qu'il sait de Jésus. Est-ce qu'on est là? Il est limité dans sa foi, ce n'est pas de sa faute. Il viendra un jour où la conscience spirituelle de Philippe sera parvenue à maturité, il agira autrement. Mais à ce stade-ci de son cheminement spirituel, c'est de cette façon qu'il réagit. Il oublie qu'en présence de Jésus, tout est possible. Quand j'ai prêché sur le miracle de la transformation de l'eau en vin à Cana en Galilée, j'ai mentionné Philippe. Philippe était là. Il a vu la gloire de Dieu. Il a vu comment le Christ, le Fils de Dieu, a glorieusement alimenté le festin en vin. Il était là. Et il a oublié tout cela. Il a oublié tout cela. Il connaît l'histoire de l'Ancien Testament. C'est un homme de Dieu. Il connaît sa Bible. Les miracles que Dieu a opérés en Exode 16, les 10 plaies d'Égypte, il est au courant de ces miracles, de ces prodiges, de ces manifestations de la gloire de Dieu. Mais le problème fait oublier tout. Est-ce qu'on est là, l'Église du Seigneur? Voyez-vous comment nous sommes fragiles, vous et moi? Mais qu'à cela ne tienne, frères et sœurs, Philippe ne comprend toujours pas que la gloire de Dieu transcende les réalités matérielles. La gloire de Dieu transcende l'argent. Il ne comprend pas encore, l'homme de Dieu, que la gloire de Dieu transcende le marché. La gloire de Dieu transcende la logistique. La gloire de Dieu transcende les puissances humaines. La gloire de Dieu transcende le savoir, la connaissance. La gloire de Dieu, frères et sœurs, transcende les stratégies humaines. Philippe n'a pas encore compris cela. La gloire de Dieu transplante les montagnes. Le Christ a dit à Zorobabel, qui es-tu, grande montagne, pour résister à Zorobabel? La gloire de Dieu envoie les plaies d'Égypte. Mais Philippe n'est pas encore rendu là. Je pense, au passage, je pense, frères et sœurs, que il y a beaucoup de gens qui ont manqué l'occasion de voir la gloire de Dieu se manifester dans leur vie, dans leur entourage, parce que, ces gens-là, ils ont une chose qu'ils n'ont pas compris encore. Ils n'ont pas compris l'importance, voire la nécessité d'une obéissance radicale. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Il y a obéissance radicale. Est-ce qu'on est là? Ça va aller. Dans la vie chrétienne, l'obéissance radicale est de mise. C'est elle qui est exigée. Peuple du Seigneur, et si la difficulté à laquelle tu es confronté actuellement dans ta vie professionnelle, dans ta vie personnelle, dans ta vie financière, dans ta vie physique, dans ta famille, dans ton église, et si ce problème, cette situation était un test, l'aurais-tu passé? Tu n'as pas besoin de me répondre. Pasteur Sergo ou bien Sergo, si ce problème que tu traverses dans ta vie, pastoral peut-être, ministériel peut-être, personnel, professionnel, et si c'était un test, l'aurais-tu réussi, pasteur? Diacre André, Diacre Pierre, Diacre Edzer, l'église de l'oratoire, l'auriez-vous passé ce test-là? L'auriez-vous passé? Abraham l'a passé avec succès, il a eu A+. Mais Philippe ne l'a pas passé. Mais Dieu va avoir grâce de Philippe. Verset 8 à 9, frères et sœurs. Un de ses disciples, André, frère de Simon, 8 à 9, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge. Je ne sais pas trop quelle est la différence entre le pain d'orge et le pain de blé, mais c'est différent relativement. Parfois, ils mettent de l'orge dans le blé, dans du blé. Et 2 poissons. Il a bien commencé, lui, Philippe. Mais il a mal terminé. Avez-vous remarqué cela? Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Avez-vous remarqué? Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? André fait un peu mieux que Philippe, dans la mesure où il réfléchit à une solution pratique. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Mais lorsque nous analysons le texte en profondeur, lorsqu'on fait une exégèse approfondie du texte, on s'aperçoit que c'est blanc, bonnet blanc, oui, frères et sœurs. Philippe n'est pas si différent que André, André n'est pas si différent que André. Sa foi est tout aussi insuffisante que la foi de Philippe. Regardez bien, il y a un jeune garçon qui a 5 pains et 2 poissons, juste dit ça au Seigneur, Seigneur, débrouille-toi avec. Mais il décide que cette solution n'est pas envisageable. Mais avec Jésus, toutes les solutions saintes et sacrées sont envisageables. Ça va là? Waouh! Il ajoute avec un brin de pessimisme. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Qu'est-ce que cela pour tant de gens? Savez-vous ce que ça signifie, ça suggère? Je ne vois pas comment je vais pouvoir nourrir 5000 personnes et plus avec ça me saute d'où là, ce que je viens de te dire, c'est-à-dire 5 pains et 2 pois et 2 poissons. Même bagarre avec Philippe, en d'autres termes. André a échoué le test de la foi que Jésus a décidé de lui passer. Regardez bien, Jésus lui parle, mais il parle à tous les autres disciples. Il s'adresse à Philippe, mais il s'adresse à tout le monde. Tout le monde est là à écouter. C'est un collège, c'est un sacré collège de 12 hommes. Et les autres évangiles, j'ai parlé des autres évangiles synoptiques tout à l'heure, ils évoquent une conversation entre Jésus et la foule. Et les disciples. Donc, ils sont tous au courant. André a échoué le test. Il n'y a personne, frères et sœurs, qui a répondu que Jésus est capable de pourvoir leurs besoins. Ou bien s'ils le disent, ils ne le démontrent pas dans leur conduite, dans leur attitude, dans leur comportement. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Ils sont tous pris de panique. Un peu comme quand Israël était dans le désert, vous vous rappelez? Ramenez-nous en Égypte. Là, on pouvait manger, si on pouvait manger ça. La réponse la plus sage, la plus biblique, la plus chrétienne à la circonstance serait de dire, Seigneur, il y a beaucoup de gens ici, je le sais, il faut les nourrir, je le sais, mais à toi, rien n'est impossible. On a plutôt entendu des raisonnements, des logiques, des considérations humaines, terrestres, matérielles, frères et sœurs, comme si le Dieu de gloire était limité par les choses de la terre. Le Dieu de gloire n'est pas limité par les choses de la terre, frères et sœurs. La situation qui te tracasse, Dieu peut la transformer en un tour de main, frères et sœurs. Il est le Dieu de gloire. Ah, peuple de Dieu, je vais achever. Avez-vous remarqué que de telles attitudes inappropriées, anti-bibliques, on les observe déjà dans l'Ancien Testament. Vous êtes au courant? Vous vous rappelez Moïse, le géant de la foi? L'homme, selon Exode 33, à qui Dieu a parlé, comme un homme parle à son ami. Quand Moïse se rendait compte de l'immensité de la tâche que Dieu lui a confiée, le peuple vient de sortir d'Égypte. Il se plaint de ne pas pouvoir manger ce qu'il mangeait là-bas. Le peuple regrette l'esclavage. Vous vous rappelez? Moïse est pris entre l'enclume et le marteau. Dieu est en colère, avec raison, il est Dieu. Il se fait insulter par son peuple. Il se fait mépriser par son propre peuple. Et entre-temps, Moïse, ce n'est pas lui qui a fait, c'est Dieu qui a fait. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Il est pris entre les deux. Et Moïse de dire, vous vous rappelez, Nombre chapitre 11, verset 4, tout le chapitre 11 va vous révéler cela. Et Moïse épuisé, et dans son épuisement, sa foi a failli. Moïse dit, d'où prendrai-je de la viande pour en donner à tout ce peuple? Parce que Dieu leur avait donné la manne et ils voulaient de la viande cette fois-là. Mais Moïse n'est pas différent. On a évoqué Abraham tout à l'heure qui a réussi son test. Mais ici, Moïse ne l'a pas réussi. Moïse était censé savoir que Dieu pourvoirait, comme Abraham l'a su. Vous vous rappelez, frères et sœurs? Il n'a pas compris. Il a vu la gloire de Dieu en Égypte. Où prendrai-je de la nourriture? Mais dans sa longanimité, dans sa patience, dans sa compassion, dans sa gloire, donc, eh bien, l'Éternel lui répond à sa question par une question, en lui disant au verset 23, Nombre 11, verset 23, vous lirez cela à la maison. La main de l'Éternel, Moïse, est-elle trop courte?
L'oratoire, je ne m'en parle pas à vous. La main de l'Éternel est-elle trop courte? Famille de l'Église, c'est avant moi de parler. La main de l'Éternel est-elle trop courte tout à coup? Mais je comprends, le serviteur d'Élisée a fait la même chose. Mais je peux comprendre dans son cas. Il était quand même témoin de la gloire de Dieu à travers le ministère d'Élisée. Et lorsque Élisée lui demanda de nourrir 100 hommes, il dit, « Comment mettrai-je ceci devant 100 hommes ?» En parlant de 20 pains. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Ah là là, ça ressemble à André qui dit, « Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Deux rois 4, 43 à 47, vous lirez à la maison. Et Dieu parla, il a manifesté sa gloire, il parle à travers Élisée, au serviteur d'Élisée en lui disant, « On en mangera. » Et il y en aura de reste. L'oratoire Bomdoukichoy, laissez-moi vous dire, ce sera, on ne sait pas quand, mais on en mangera et on en aura de reste. Vivez dans l'unité, dans la famille, la Kaila. Évitez les chicanes pour des choses secondaires. Concentrez-vous sur Dieu dans l'église là. Ou après Kichoy, on en mangera, malgré Soweya, on en mangera et il en restera par la grâce de Dieu, frères et sœurs. Tout est une question d'obéissance, de communion, d'attachement, d'unité, d'amour, de paix, de joie. On en mangera. Il en restera. Dixit, Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Peuple de Dieu, écoutez ceci de la part du Seigneur. Je ne suis qu'un simple instrument. C'est Dieu qui vous parle ici en ce moment et à travers moi. Je ne suis rien. Quand vous vous sentez accablé, accablé, soit par des problèmes, par des pénuries, de la rareté, des carences, accablé par la lourdeur de la responsabilité que vous avez dans votre travail, dans l'église, dans la famille. Quelquefois, nous joignons, c'est, il y a un monde qui a porté toute famille en sous-doli, Haïti ou États-Unis ou ici, ça dépend. On est accablé. Quand vous vous sentez que vous êtes sur le point d'être découragé par la somme de vos douleurs, de vos fardeaux. Quand vous sentez que vous êtes accablé par l'immensité, le volume de vos besoins, des besoins de votre famille, des besoins de votre église, des besoins de votre entourage. Quand il y a un collègue qui vous talonne dans votre travail, à travers une concurrence déloyale, et que cela vous cause du chagrin, Dieu vous dit ce matin, par mon organe, et seulement par mon organe, prenez courage. Prenez courage. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il a les ressources en abondance pour combler vos besoins. Dieu vous dit, tournez les yeux vers lui. Lorsque ce que je viens d'énumérer là se pose, et d'autres que je n'ai pas énumérés, lorsque vous les contemplez, vous les regardez devant vous, Dieu vous dit, tournez-vous vers lui et prenez courage. Parce que les ressources qu'il dispose, dont il dispose plutôt, sont en nombre insuffisant. Elles sont plus nombreuses que celles que tu pourrais t'imaginer. Est-ce que vous êtes prêts à continuer la route avec votre Dieu, frères et sœurs? Revenons rapidement à l'histoire. Verset 10 à 14. Jésus a eu pitié, je vous l'ai dit, je vous l'avais annoncé. Jésus a eu pitié du désespoir de ses disciples, de leur misère, de ma misère, de ta misère. Quand nous sommes en défaillance, Jésus a eu pitié de leur faiblesse et de l'insuffisance de leur foi. Jésus a eu pitié dans sa miséricorde, dans sa longanimité, dans ses compassions. Il a eu pitié de leur scepticisme, de leur pessimisme. Il dit, pas besoin qu'on ait, je paraphrase,
Je n'ai pas besoin de savoir si ça suffit pour nourrir tant de gens. Je n'ai pas besoin de savoir si tu en trouvais, est-ce que cela aurait été suffisant. Faites-les asseoir. Est-ce qu'on a là? L'oratoire, chita. Jésus est en train de se retrousser les manches, toi, assis-toi. Assis-toi. Peuple du Seigneur, assis-toi. Famille de l'oratoire, chita. Oui, hier j'étais chez le médecin, il m'a dit, il a vu, assis-toi. Oui, on annonce que le travail va fermer, et assis-toi. Oui, mon mari, il a changé tout d'un coup, assis-toi. Oui, ma femme a changé tout d'un coup, pasteur, assis-toi, sœur. Assis-toi, chita. Chita. Jésus va se mettre au travail. Se mettre au travail, chita. Jésus n'a que faire de ce qui se passe parce que lui, il sait qu'est-ce qu'il va faire. Sur ces autres fêtes, a remarqué que la suite du passage nous dit, ils ont obéi au Seigneur. C'est des hommes de Dieu, je vous dis. Leur foi est défaillante, mais ils obtempèrent à l'ordre du Seigneur. Ils ont fait mon chita vrai. Avez-vous remarqué cela? Fait mon chita par la foi, vraiment. Ils sont en défaillance, mais ils sont obéissants à leur Seigneur, heureusement. C'est déjà une bonne nouvelle. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Ils ont fait, les gens, ils ont demandé aux gens de s'asseoir. Quand Dieu vous dit, regardez bien, si le Seigneur descendait, Dieu dit, tout le monde qui est là, en nous groupant nous en avant, est-ce qu'on a fait ça, frères et sœurs? Et si ce n'est pas là que l'on passe pour bénir l'église là? Et puis tant de dates, il y a demandé pour nous, tout le monde avance devant, tout le monde avance devant. Obéissons, non, on obéit. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Qui vous dit que ce n'est pas avec cette instruction de votre pasteur que Dieu va le bénir l'église là? Mais je vous aime pareil dans le Seigneur. Hein? Et alors, les gens sont assis, frères et sœurs, à l'instruction, à l'ordonnance du Seigneur comme l'ordonnateur principal. Eh bien, vous connaissez la suite de l'histoire. Je vais terminer ici. Et Jésus rendit grâce. Il rendit grâce. Il rend gloire à Dieu d'abord. Et rends gloire d'abord. Il y a de ces délivrances que tu attends, tu commences à rendre gloire d'abord. Est-ce qu'on est là? Tu commences à obéir d'abord dans la prière. Est-ce qu'on est là? Dans l'unité, dans l'amour. Tu commences à obéir d'abord. Il rendit gloire. Il rendit gloire. C'est ce qu'il a fait au chevet de Lazare. Il rendit gloire d'abord. Il y a de ces bénédictions qu'on attend. On ne chicane pas, on rend gloire en attendant. Est-ce qu'on est là à l'église du Seigneur? Il rendit gloire. Rendit gloire. Ah, je connais un frère qui me dit que, il y a plusieurs personnes, nous sommes rentrés sur Haïti dans des conditions que nous sommes capables d'imaginer. Les choses n'étaient pas faciles, les familles sont entrées. Ils ont travaillé dur en Haïti, ils ont trimé dur pour gagner leur vie. Le Seigneur les a transportés ici. Ils ont trimé encore parce que les débuts ne sont jamais faciles. Et puis quand nous ne pas le bénir ensemble, c'est alors qu'ils sont tous séparés. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Là, on ne parle pas de l'autre plus là, oui. C'est là, ils sont séparés. Savez pourquoi? Nous avons besoin de rendre gloire avant le problème arriver et avant de résoudre. Est-ce qu'on est là? La gloire prévention. Ça va, peuple de Dieu? Et tout le monde manger. On va arrêter là. Tout le monde manger. Ramasser les morceaux. Regardez bien. Lorsqu'il fut rassasié, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent. Il en reste afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers, probablement à raison d'un panier par disciple. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Ils en étaient 12. Ce que j'aime avec le Seigneur, c'est qu'il ne fait jamais rien à moitié. Avez-vous remarqué cela? Dieu ne délivre jamais à moitié. Ou il délivre, ou il délivre pas. Mais quand il délivre, il délivre. Il délivre. Voilà pourquoi la gloire que nous rendons à Dieu ne doit pas être une gloire à moitié. Un jour, on obéit à son Seigneur, un autre jour, on désobéit. Est-ce qu'on est là? La gloire que nous rendons à Dieu doit être entière, car quand Dieu bénit, il ne bénit pas à moitié, il bénit entièrement. Il en reste. Ça a pris deux choses pour que la gloire de Dieu se manifeste ici, frères et sœurs. D'abord, quelqu'un qui a dit, le petit garçon qui a dit, oui, Seigneur, je sacrifierai ce que j'ai. Probablement, il avait tout ça pour toute sa vie, pour toute la journée. Mais il l'a mis au pied du Seigneur. Avez-vous remarqué cela dans le texte? Oui. Oui, Seigneur, je sacrifierai tout ce que je suis et tout ce que j'ai.
Premier bagaille que ça a pris pour la bénédiction, pour que la gloire de Dieu se manifeste. Deuxième bagaille que ça a pris, la deuxième chose que ça a pris pour que la gloire de Dieu se manifeste, frères et sœurs, c'est qu'il y avait des gens qui étaient prêts à dire, Seigneur, eh bien d'accord, je te suivrai partout où tu iras sans me plaindre. Est-ce qu'on est là, peuple de Dieu? La multitude est rassasiée. Première leçon de ce texte, rien n'est impossible à Dieu. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Deuxième leçon de ce texte, Dieu sait ce qu'il fait. Et s'il a su ce qu'il ferait la fois passée, il sait ce qu'il fera dans votre vie, dans la vie de ton entourage, de ta famille, de ton église. Dieu sait ce qu'il fera. Dieu sait ce qu'il fera. Tu ne sais pas, mais il sait. Déjà, il est en train de le faire. Il est dans un autre roi, il est dans un autre monde. Tu ne le vois pas. Il sait ce qu'il fait. Il travaille en ce moment. Il est en train de travailler. Dieu sait. So, j'aime te dire ça. Tu diras un jour, il y avait un vieux monsieur aux cheveux blanchis qui vous l'avait dit. Dieu sait ce qu'il fera dans ta vie. Est-ce qu'on est là? Attendons Dieu dans la gloire. Attendons Dieu dans la louange. Attendons Dieu dans l'adoration. Qu'il en soit ainsi pour nos frères et sœurs.